En entrevue avec Mark Griffin qui publie ces jours-ci une autobiographie, ça s'appelle 26 Mark Griffin. Pour ceux qui le connaissent moins, ça a été un voltigeur dans l'organisation des Dodgers de Los Angeles et celle des Expos de Montréal, participé aux Jeux olympiques. Et là, Mark, corrige-moi si je me trompe, mais t'es maintenant analyste de baseball.
Oui, exact. Je suis à RDS là, depuis plusieurs années à décrire et analyser. Encore une fois, ma passion, le baseball.
Ouais. On est le printemps, Marc, même si ça paraît pas toujours à l'extérieur parce qu'on a de la neige, tout ça. Est-ce que tu as encore ce feeling-là, un peu comme on a à la rentrée scolaire, de, pour toi, la rentrée au baseball?
Oui, la rentrée au baseball, ça annonce le printemps. ça annonce le beau temps, ça annonce la belle saison. Fait que c'est toujours une bonne nouvelle lorsqu'on parle de baseball.
OK. Moi, j'ai lu ton livre avec passion. Je l'ai dévoré en un après-midi seulement. Je savais pas que tu avais joué au hockey, Marc, et que tu avais été si bon que ça au hockey. Est-ce que tu as vraiment eu le choix ou si le baseball s'est plus imposé?
Ben, écoutez, j'avais quelques habiletés au hockey. Je vous dirais que le choix s'est fait quand même assez naturellement. Je sentais une synergie davantage avec le baseball, où j'avais l'impression que je pouvais exploiter davantage mes forces dans ce sport-là. Ça a été déchirant en quelque sorte de dire, bon ben là, j'arrête complètement le hockey parce que venez, j'avais un choix à faire, mais ça reste que ça a été un choix quand même assez facile là, à l'époque là, d'y aller avec le baseball.
Et tu as vécu beaucoup de péripéties. Tu as été repêché d'abord par les Dodgers. En fait, pas repêché, tu as été signé par les Dodgers parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de signature. C'est venu après les Jeux olympiques ça, de Séoul. Comment ça s'est déroulé pour toi, les Jeux olympiques?
Ben, les Jeux olympiques, ça a été une expérience. Bon, évidemment, c'est un rêve. Je pense que n'importe quel athlète, ouais, dans n'importe quelle discipline, de pouvoir participer aux Jeux olympiques, c'est quelque chose de grandiose. L'entrée, évidemment, dans le stade, lorsque tu fais partie de la fameuse cérémonie d'ouverture, c'est un souvenir tout à fait extraordinaire. Sur le terrain, ça a été de grands défis, parce que je participais depuis quelques années déjà avec l'équipe canadienne, et on m'a laissé de côté un peu, donc j'ai dû prendre pas mal de maturité, je vous dirais, pour l'expérience olympique, mais qui m'a quand même très bien préparé pour la suite des choses dans la jungle du baseball professionnel.
Ouais, justement, on en arrive là. Les Dodgers de Los Angeles t'ont fait signer un contrat. Encore là, ça a été déchirant pour toi parce que les Expos aussi t'avaient fait une offre à ce moment-là, Marc.
Ben, et oui, moi, comme petit gars qui a grandi dans la région de Québec, je voulais jouer avec les Expos. C'était mon rêve de jeunesse. Et j'étais tout prêt, mais lorsque je suis arrivé dans cette étape-là de ma vie, ben là, je suis vite rentré dans la business du sport. Donc, ce qui se passait vraiment, qui te courtisait, combien on t'offrait, c'est quoi les possibilités pour toi dans l'organisation. Et c'est là que la grande organisation, la prestigieuse organisation des Dodgers est venue. Et bon, évidemment, c'est là que la décision s'est prise de me retrouver avec les Dodgers. Mais la vie a fait en sorte que j'ai été échangé plus tard aux Expos. Donc, j'ai pu caresser les deux à ce moment-là, qui en a rendu une belle histoire, finalement.
Oui, c'est vrai. Tu as vécu, je disais, des hauts et des bas, élu joueur par excellence, joueur le plus aimé de certaines équipes de l'organisation des Dodgers. Tu n'as pas de regrets, j'imagine, d'avoir choisi les Dodgers?
Oh non. Honnêtement, là, j'ai aucun regret. C'est sûr que il y a des étapes de la vie dans mon attitude face au baseball. Il y a des choses que je changerais, là. Je pense que tout le monde pourrait dire la même chose, mais les décisions prises, absolument pas. Ça, je pense que ça a été les bonnes décisions à l'époque. C'était ce qui faisait le plus de sens. Et finalement, ça s'est avéré fort important. Mais c'est évident que si on regarde en arrière, dans la façon dont je pensais, vous savez, au baseball, on échoue 7 fois sur 10 au bâton, puis on est bon. Hein? On réussit 3 coups sûrs en 10, on frappe pas 300, on est bon. Puis ça a été un élément qui a été un grand défi dans ma carrière, c'est d'accepter l'échec.
Je veux que tu me parles, Marc, de probablement le joueur, le coach qui t'a le plus marqué. Peut-être pas un coach que tu as eu à toi, mais Philippe Alou, c'est quand même un personnage qui t'a marqué beaucoup. Il y en a beaucoup question dans ton livre.
Ben, il y a eu cette relation-là avec Philippe qui a été très forte dès le départ. Puis lorsque j'ai rencontré Philippe Alou la première fois, il n'y a personne qui le connaissait au Québec. Philippe était le gérant de la filiale A, vous imaginez, des Expos de Montréal. Et moi, je jouais dans l'organisation des Dodgers. Donc, c'est la première rencontre que j'avais avec Philippe. Mais il y avait eu une espèce de lien déjà qui, au fil des années, ben, on avait toujours cette, je sais pas si c'était une coïncidence, mais en tout cas, c'était très agréable pour moi de toujours le croiser Et là, j'ai été changé aux Expos, je me suis retrouvé dans l'organisation. Il était devenu, à la toute fin là, de ma carrière, il était l'assistant à Tom Reynolds, pour ceux que ça rappelle des souvenirs des Expos.
Le caporal, le général, comment on le surnommait, lui, déjà?
Exactement, exactement. Alors, à ce moment-là, donc, vous savez, donc, il y a eu cette connexion avec Philippe et, inévitablement, par la suite, il est devenu gérant des Expos et moi, je me suis retrouvé analyste. Alors, c'était une longue relation qui a débuté puis qui c'était très, très forte et qui a eu une très grande influence sur ma carrière.
Tu as croisé aussi de très grands joueurs au cours de ta carrière, des joueurs que tu as croisés dans des camps d'entraînement, des joueurs avec qui tu as joué qui sont devenus de grandes vedettes. Est-ce que tu as encore des relations avec ces joueurs-là?
Oui, absolument. Ah oui, absolument. Évidemment, l'arrivée des médias sociaux a aidé beaucoup. Hein. C'est plus facile maintenant d'entrer en contact avec nos anciens coéquipiers qui, à l'époque, n'étaient pas des joueurs étoiles du tout. C'était des joueurs comme moi qui tentaient leur chance dans le sport professionnel. Oui, c'est des gars qui... Faut pas oublier là que on est tous des joueurs bon issus de milieux différents. On était tous bons dans nos propres villes ou associations. Puis là, on se retrouve, évidemment, dans le baseball professionnel où tout le monde est supposément bon. Et là, ben c'est là qu'il faut que tu te démarques, tu trouves une façon de te démarquer, de te développer. Et ça a réussi à plusieurs, d'autres un peu moins, mais parfois la ligne est très fine entre le gars qui réussit à passer puis le gars qui, malheureusement, a dû s'arrêter éventuellement.
Ouais. En lisant ton livre, Marc, ce qui me marque, c'est que tu as joué au baseball dans une époque qui était bien différente de celle d'aujourd'hui, en tout cas à voir ou à entendre ou à lire. Aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Tu m'as parlé du niveau business, mais à l'époque, c'était peut-être encore moins gros. Là, avec les salaires qui se signent, par exemple, Bryce Harper qui signe à presque un demi-milliard de dollars, qu'est-ce que tu penses du baseball? Qu'est-ce que devient le baseball avec tout ça?
Bon, c'est sûr que le baseball, il y a beaucoup d'argent maintenant. Je vous dirais que heureusement qu'il y a une belle distribution de richesses. Et je sais qu'il n'y a pas de plafond au baseball, mais il y a une belle distribution de richesses. C'est sûr que ces contrats-là sont absurdes, bon, on va se le dire, mais bon, c'est l'industrie du cinéma. Un acteur principal va quand même faire beaucoup, 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 beaucoup d'argent, puis on en fait moins de cas, vous allez dire, mais. C'est sûr qu'il y a un petit ménage à faire et je pense que la richesse doit être mieux partagée. Il y a beaucoup d'argent, puis c'est correct. Puis je pense que s'il y a un retour des Expos, c'est à l'avantage du groupe de Montréal, étant donné ce partage-là. Mais ça reste que les propriétaires font beaucoup d'argent, alors les joueurs veulent leur part. Je pense qu'il faut juste s'entendre sur la répartition un peu mieux. Parce que là, il y a trop de différence entre le joueur étoile qui fait énormément d'argent, puis le très bon joueur qui est correct, qui est moins populaire, mais qui fait pratiquement une fraction là, du salaire du bon joueur. Donc, il y a des choses à régler dans le baseball, mais ça reste ce partage de revenus-là fait en sorte que la plupart des marchés peuvent en bénéficier.
Petite question complémentaire par rapport à ça. Tu t'ouvres, tu es assez ouvert quand même sur les salaires que tu gagnais quand tu étais dans les mineurs. Est-ce qu'on paie encore aussi peu les joueurs dans les mineurs, Marc?
Oui, c'est ça qui est malheureux. Et chaque fois qu'une nouvelle convention collective, les joueurs des mineurs disent la même chose. Ils disent, écoutez, nous, on aimerait ça quand même avoir pas la part du gâteau, parce que dans les mineurs, c'est pas là qu'on génère un paquet de revenus, mais c'est en deçà du salaire minimum là, que les joueurs de baseball professionnels mineurs gagnent. Donc, il y a un écart tellement énorme qui, selon moi, pourrait être corrigé. Moi, à l'époque, ce qu'on me disait, c'est que tu peux pas faire une carrière dans le baseball professionnel mineur. On veut pas que tu fasses une carrière. On veut pas que tu passes 10 puis 12 ans, comme par exemple d'autres sports où un joueur de la Ligue américaine au hockey peut quand même jouer jusqu'à 30, 32 ans puis faire un salaire décent puis quand même gagner sa vie. Tu peux pas faire ça au baseball. Alors, on veut que tu réussisses à te rendre dans les majeures, puis si au bout de 5, 6, 7 ans, ça marche pas, tu vas passer à autre chose. Alors, on a encore cette mentalité-là où que le joueur de baseball professionnel mineur fait très peu d'argent pour qu'ils puissent éventuellement donner tout ce qu'il a pour atteindre le baseball majeur. C'est peut-être une pensée qui devrait être renouvelée à ce niveau-là.
D'accord. C'est bientôt le temps de voir du baseball au Stade olympique. Marc, les Brewers vont affronter les Blue Jays. C'est plus populaire que jamais le baseball. Est-ce que tu sens, toi, une espèce de vague de changement? Pendant un temps, tout le monde jouait au hockey, au baseball. Ensuite, tout le monde jouait au soccer. Là, on dirait que le baseball veut revenir à l'avant-scène.
Juste pour vous donner en chiffres, lorsque les Expos ont quitté en 2004, donc à l'été 2005, là, on était tombé à peu près à 14-15 000 joueurs de baseball au Québec. dans les meilleures années des expos, dans les années 80, on a atteint près de 50 000 jeunes. Alors, vous voyez que l'écart est épouvantable. Là, aujourd'hui, en 2019, on devrait atteindre autour de 35 000, 36 000 jeunes qui jouent au baseball au Québec. Donc, vous voyez, là, on a un creux très profond là au départ des expos 2005-2006. Mais depuis ce temps-là, c'est une remontée fulgurante du baseball au Québec. Il y a plusieurs responsables à ça. Je pense que les programmes sont meilleurs, l'enseignement est meilleur, l'encadrement est meilleur. Là, le défi qui s'en vient dans les prochaines années, c'est qu'on a tellement défait des terrains de baseball pour en faire des terrains de soccer. C'est correct parce que le soccer avait pris beaucoup d'ampleur à l'époque. Mm-hmm. Mais là, on revit ce problème-là à l'inverse où là, il va commencer à manquer d'infrastructures pour le sport et certaines municipalités et associations sont obligées maintenant de refuser des inscriptions en raison du manque de terrain. Donc, c'est un beau problème, mais ça reste quand même quelque chose un défi à relever au cours des prochaines années. C'est une très, très bonne nouvelle. Et si jamais il y a le retour des expos éventuels, ben imaginez, ouais. Je pense que ça peut juste grandir à ce niveau-là.
Parfait. Hey Marc, je ne sais pas si tu fais des conférences dans certaines écoles, mais moi, en lisant ton livre, ça m'a donné le goût d'aller jouer dehors. Ça me rappelait ma jeunesse quand on allait jouer dehors et tout ça. Est-ce que tu fais des conférences?
Oui, je peux. Ah oui, absolument. Je donne des conférences. Et là, évidemment, avec le livre, ben, vous comprendrez que le message là-dedans, c'est de rêver, puis c'est de laisser nos jeunes rêver, puis la possibilité d'aller toucher à son rêve avec évidemment des efforts et de l'acharnement, mais ça reste que c'est possible de laisser les jeunes rêver. Et effectivement, ben, avec l'ère technologique, c'est un peu différent aujourd'hui, mais ça reste que il n'y a rien qui bat le fait d'aller s'exercer dehors dans notre sport favori pour être encore meilleur.
Et justement, tu parles de rêver. Je veux, en terminant, Marc, te citer quelque chose que j'ai trouvé très beau dans ton livre. En fait, c'est pas de toi, mais tu le cites. C'est Michael Jordan qui dit « N'abandonne jamais. Si tu le fais une fois, ça pourrait devenir une habitude. » Est-ce que c'est encore un motto pour toi? Est-ce que c'est encore un modèle, tout ça?
Ah ouais, ben moi, tout ce qui est dans le livre, là, c'est dans le fond, les messages, parfois un peu subtils peut-être, mais qui sont dans le livre. C'est pour moi des messages qui ont été très, très forts, que ce soit des entraîneurs, que ce soit comme celle de Michael Jordan. Pour moi, c'est marquant. C'est des choses qui me motivaient. Alors, tout ce qui me motivait, toutes les paroles d'entraîneurs qui m'ont permis là, d'aujourd'hui de me développer à l'époque puis d'être la personne que je suis aujourd'hui. C'est tout est dans le livre, mais effectivement, c'est des paroles qui, pour moi, ont été... m'ont bénéficié certainement dans les étapes là, de cette carrière-là.
Parfait. T'avais des rêves, Marc, que t'as réalisé, jouer au baseball, rencontrer Philippe Allou et tout ça. Est-ce que t'as encore des rêves par rapport au baseball?
Ben oui, absolument. Il faut jamais cesser de rêver. Évidemment, là, c'est des rêves qui peuvent être un peu différents, mais là, je rêve au retour des expos et de me voir être impliqué avec cette équipe-là. Ouais. Il y a un paquet de rêves. Là, aujourd'hui, en plus, j'ai trois jeunes garçons. Alors, je rêve, eux, de les voir, évidemment, exploiter leur propre force et de les voir grandir et devenir, évidemment, des bonnes personnes pour les prochaines années.
Est-ce qu'on verra de plus en plus de joueurs québécois, tu penses, au baseball majeur, Marc?
Absolument. Vous avez déjà des belles nouvelles avec des gars comme Abraham Thoreau présentement, des Raphaël Gladue, des Benjamin Pelletier, des Charles Leblanc qui sont tous... Il y en a d'autres et il y a près de 60 Québécois présentement dans les collèges américains. Les programmes sont meilleurs, l'enseignement est meilleur. C'est évident que les athlètes, plusieurs ont décidé de choisir le baseball maintenant. À l'époque, les bons athlètes jouaient autant au hockey qu'au baseball, donc choisissaient le hockey. Alors oui, on va en avoir, selon moi, on va en avoir de plus en plus. C'est une très, très bonne nouvelle pour notre sport.
Mais Marc, je te remercie de nous avoir donné cette entrevue-là. Je rappelle que Marc Griffin publie ces jours-ci un récit autobiographique. Ça s'appelle Le 26 et c'est aux éditions de Mortagne. Merci encore, Marc.
Au grand plaisir. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.